France Musique.
Le casque et l'enclume. Ok, il en a une drôle de voix, le monsieur. Mais ils en ont tous de drôles de voix ici. Bonjour à tous, c'est le casque et l'enclume, votre avant-dernière séance critique de la saison sur France Musique. Aujourd'hui, du concert au programme, enfin de l'opéra. Nous sommes allés voir Adrien Lecouvreur de Chilea à l'opéra Bastille, Armide de Lully à Nancy, Caton in Utica. Oui, c'est une curiosité de Leonardo Vinci. C'était à Versailles, mais ça existe aussi en disque. Et puis nous causerons de la nomination cette semaine, ça a été une surprise, du chef d'orchestre russe, je ne dis pas de bêtises, Kirill Petrenko à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Mes invités du jour, Michel Parouti d'Opéra Magazine, Richard Martet d'Opéra Magazine, qu'il dirige d'ailleurs, soit dit en passant, et Christian Merlin du Figaro, qu'il ne dirige pas et où il fait sa mauvaise tête.
Pas encore.
Pas encore, voilà, comme d'habitude. On commence par quoi? Par quoi, le grand événement de la saison? Pas de la saison, de la semaine. Ah bah, je sais pas, ils ont l'air déjà d'avoir des gueules perplexes. C'est Adrien.
Respira pure.
Le superbe et célèbre air d'Adrienne dans Adriana, le couvreur de Francesco Cilea. C'était Angela Giorgiou qu'on entendait ici. Io son l'umile ancella, comme il me rappelait bien, non pas l'humide, hein, mais l'humble servante, bien évidemment. Adrienne, le couvreur, à voir donc depuis mardi à l'Opéra de Paris dans une nouvelle production signée pour la mise en scène David McVicar, Daniel Oren pour la direction musicale, dominée donc par Angela Giorgiou. Je dis nouvelle production, mais enfin Richard Marté, faut préciser quand même, hein, c'est une nouveauté parisienne, uniquement parisienne.
C'est une coproduction en fait entre différents théâtres. Donc elle a été créée au Covent Garden de Londres en 2010. Mmh. J'y étais allé d'ailleurs pour cette occasion.
Donc c'est une nouveauté d'au moins 5 ans. Quoi.
Voilà, ouais. Puis après ça a été repris à Vienne, ça a été repris à Barcelone. Et ça arrive donc à Paris avec toujours Angela Giorgiou, qui était dès le départ, qui n'était pas à Barcelone, enfin après les distributions ont changé, mais qui était à Londres, du moins les soirs où elle chantait. Et qui est donc venue à Paris. Je pense qu'il y a certains qui se disaient, est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va pas venir? Est-ce qu'elle
annulée,
va annuler? Non, non, elle était là mardi soir, toujours très belle. C'est incroyable. En 5 ans, elle est pareille. Comme je l'avais quittée à Londres, sous-dimensionnée pour le rôle et pour la salle. La voix toujours aussi jolie, on entend en permanence Mimi de la Bohème au lieu d'entendre Adrienne Lecouvreur. Mais c'est très joliment fait. Enfin, quand on entend... Je corrige.
D'accord.
On entend inégalement au premier acte, très inégalement au deuxième acte, puisque elle sombre complètement dans le duo de la fin. Et pourtant Luciana Dintino ne hurle pas, mais on n'entend quand même pas Angela Giorgiou. Troisième acte, Phèdre, elle est toujours aussi ridicule qu'à Londres. Je veux pas trop en rajouter, Lionel, parce
d'accord,
que
oui.
Quand on avait fait un des premiers Casquet l'Enclume en 2010, j'avais déjà dit tout ce que je pensais, et elle a un quatrième acte sublime, puisque là, enfin, tout d'un coup, sa manière de chanter Mimi de la Bohème, là, Adrienne ressembla à peu près à l'acte 4 à Mimi de la Bohème, c'est mieux, c'est un peu moins bien qu'à Londres, j'ai trouvé qu'il y avait quelques sonorités pas très justes, mais ça reste une belle artiste.
Ouais, une belle artiste, mais qui est pas dans le rôle, si j'entends bien, Richard, Christian.
Oh bah, c'est le moins qu'on puisse dire, ah bon, en effet. C'est toujours la question, qu'est-ce que c'est ce répertoire? Qu'est-ce que sont ces personnages? Alors, on part de l'idée que c'est du vérisme. Ça veut tout et rien dire, cette histoire de vérisme. En l'occurrence, c'est une grande tragédienne dont l'incarnation devrait se caractériser d'abord par la noblesse, et aussi par un chant qui est tout sauf vériste, mais qui est un chant de haute école, bel cantiste, comme on peut l'entendre quand on écoute les enregistrements de Magda Olivero, de Raina Kabaivanska, qui dans l'air que vous venez de faire entendre par exemple, font des ports de voix, font des messa di voce, où on enfle un son comme en ces pianos, et on l'enfle progressivement, et on le désenfle pour retourner au piano. C'est du chant de haute école, c'est ce qu'elle n'a pas, justement. Donc, elle nous fournit une incarnation extrêmement primaire, sans parler du jeu scénique. Alors là, évidemment, on peut incriminer la mise en scène pour le moins paresseuse de David McVicar, oui. Mais il y a aussi le fait que elle, ça n'est pas sa priorité. Elle minaude en permanence. Même au dernier acte, Richard a raison, elle est très belle à écouter au dernier acte, seulement au dernier acte. En revanche, c'est jeu scénique que quand elle fait encore la petite jeune fille qui trépigne, c'est d'un ridicule achevé.
D'accord.
Alors, quand bien même la robe serait très belle, c'est vrai. Alors ça, c'est
elle
le comble.
Est grotesque. Elle reste grotesque.
Et c'est là qu'une interprète peut vraiment accrocher la lumière et captiver la salle dans la tirade de Phèdre. C'est une tragédienne du français. Et là, effectivement, on a quelque chose de très plébéien, on va dire.
Une midinette. Voilà. Une midinette qui pique sa crise. C'est ce que j'avais dit il y a 5 ans, je le redis.
Michel, rassurez-moi, ils sont un peu durs, les deux oiseaux.
Ah non,
ah non, bon, d'accord, bon, très bien.
Mais je trouve qu'elle est ridicule dès le début. Dès qu'elle entre et qu'elle dit, elle essaie de dire un vers de Bajazet, c'est pas la comédie française, c'est l'Odéon il y a 200 ans, quoi. C'est insupportable. Et contrairement à Richard, effectivement, vocalement, elle est très bien au dernier acte, mais je peux vous dire que la scène de sa mort, avec derrière Marcello Alvarez bramant Morta, Morta, c'est quand même Elsa Popine. Moi, j'avoue que je. Non, mais je crois qu'un des problèmes de
pour
moi,
c'est. On va recevoir des lettres.
Oui, la mafia roumaine va nous attendre à la sortie. Non, mais si vous voulez, je crois que le problème de cette femme, c'est qu'elle elle avait tous les atouts pour faire une très grande carrière qu'elle n'a pas faite, simplement parce que j'ai l'impression que dans sa tête, elle veut être une diva et qu'elle n'a pas compris qu'on était en 2015, qu'une diva, c'est pas ça, et que du coup, le personnage qu'elle joue dans Adrienne, c'est le sien. c'est-à-dire celui d'une diva qui est complètement décalée par rapport à la réalité. Et alors en plus, si on lit des textes de l'époque d'Adrienne Lecouvreur, elle était célèbre, paraît-il, par son jeu naturel. Alors là, je peux vous dire qu'on est quand même à côté de la plaque.
Vous avez cité donc Marcello Alvarez, c'est bien
mais
ça
qu'on entend tout, ici. Elle avait tout, je crois, pour faire
mais
vraiment...
Elle a toujours
oui, j'ai compris, mais
oui, superbe. Le timbre reste magnifique. Ça arrive, rien en plus, comme elle chante quasiment jamais, elle fait quoi? Je ne sais pas si elle fait 30 représentations par an. Donc du coup, elle se préserve.
Hein. Oui, oui. Le timbre est quand même magnifique.
La voix reste ravissante, comme il y a plus de 20 ans quand on l'a découvert. Le problème, c'est qu'elle est sous-dimensionnée pour ce rôle. Vous la mettriez même dans une salle de 800 places, le problème de Phèdre serait le même. C'est une voix de soprano lyrique au mieux, très jolie voix, dans un rôle qui exige un dramatisme qui lui échappe complètement.
Et puis elle chante tout pareil, hein, quel que soit le style, qu'on la retrouve dans le français. Hein.
Elle n'a pas de bas médium, elle n'a pas de grave. Si, elle en a, mais pour Mimi, pas pour Adrienne.
Marcello Alvarez, je dis, qui m'en parle de lui, et peut-être du reste de la distribution, parce qu'il n'y a pas... Oh d'accord, Christian
Non, mais c'est pas la gloire non plus. C'est bien, lui aussi a une belle voix. C'est un acteur impossible, ça on le sait depuis toujours. Et ça ne changera pas parce que de toute façon il ne veut pas. Lui aussi est un peu décalé, il est d'un autre temps, il considère qu'il est là pour chanter. Et là, McVicar les sert très bien parce que tous les ensembles, c'est face au public, on ne se regarde surtout pas et comme ça on entend bien la projection.
Lui, il bascule carrément dans la fosse pour être sur le
exactement,
devant,
voilà. Mais non, c'est un. Alors, c'est vrai que la voix est belle, il y a de beaux passages, il y a des inégalités néanmoins, en particulier de registre, je trouve, dans l'émission vocale. Qui n'a pas toujours. Je me souviens de soirées plus homogènes de ce point de vue-là, et j'avais été conquis par son premier paillasse à Monaco, dans une salle beaucoup plus petite, il est vrai. Là, c'est une prestation très inégale, j'ai trouvé.
Mais attendez, mais je ne comprends pas. Vous me dites des deux qu'ils ont de très belles voix, et puis ça ne vous va pas. Michel, expliquez-moi.
Effectivement, ça ne suffit pas, vous comprenez. Moi, je ne trouve pas que ce soit un rôle extrêmement captivant, Maurizio. Mais quand vous avez un type qui est planté sur la scène, qui n'a pour tout jeu de scène que le bras droit qui bat la mesure, le bras gauche qui s'écarte et qui revient, ça dure quand même pendant tous les actes. Il ne fait rien et on sent de toute façon qu'il y a une volonté de sa part de... Je ne pense pas qu'il soit plus bête qu'un autre. Je pense qu'il pourrait au moins essayer de faire exister un personnage, mais pas une seconde. Ah. Puis je trouve que la couleur de la voix s'assombrit.
Oui, là, ce n'était pas son meilleur soir.
Mais c'est-à-dire, soit il bat la mesure avec la main droite, soit surtout il marque les temps forts. Et ça, je ne comprends pas que quelqu'un ne lui dise pas « Mais arrête de faire ça !» Donc c'est extrêmement...
Avec la main, comme ça ?
Oui, avec la main, il marque les temps forts.
Et parfois, on l'entend au chant aussi, parce qu'il a eu quelques attaques vraiment extrêmement abruptes.
Il a très bien chanté. Moi, je continue à aimer cette voix. C'est que j'avais vu Jonas Kaufmann à Londres,
et voilà,
qui était absolument passionnant. C'était le premier ténor que je voyais faire un vrai personnage de Maurizio, au-delà de le chanter très bien. Il en faisait un homme impliqué dans plein d'intrigues politiques, même scéniquement, un vrai comploteur, quoi. Mm-hmm. C'était extrêmement intéressant parce que d'habitude, Maurice de Saxe, les ténors se contentent de le réduire à la dolcissima effigie, voilà, je t'aime, Adrienne, et voilà, à une banale histoire de jalousie. Lui, non, créer quelque chose. Et là, franchement, Marcello Alvarez n'essaie d'ailleurs même pas de le faire.
Et c'est comme pas le coup de McVicar.
Comme elle a une voix ravissante, on va comme revenir à Angela Gheorghiu, si vous le voulez bien, avec cette Poveri Fiori. Poveri Fiori, extrait d'Adriana Lecouvreur, toujours Angela Gheorghiu, qui est donc Adrienne sur les planches de la Bastille jusqu'au 15 juillet, diffusion France Musique le 26 juillet. Si vous voulez la voir pour le son et pour l'image, il y a la mise en scène évidemment de David McVicar qui veut commencer là-dessus. Tiens, Michel Parouti.
C'est un très joli spectacle. Bon, il est peut-être un peu... Alors Richard, qui l'avait vu, me disait que la scène de la Bastille est un peu grande pour lui. C'est très possible, mais c'est esthétiquement assez joli, un peu chargé, mais voilà, il n'y a rien à dire. Simplement, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de théâtre dedans. Quoi.
Ouais, ce qui est étonnant pour McVicar, qui est quand même quelqu'un qu'on connaît pour ça.
Mais il est aussi très irrégulier, McVicar. Ah ouais. C'est vraiment un excellent faiseur, qui n'a pas vraiment d'univers à lui, mais qui peut faire des choses très très bien, et puis d'autres un petit peu plus plates. Et là, de toute façon, c'est vrai qu'Alvarez, on n'arrivera jamais à le faire jouer, que Gheorghiu fera de toute façon ce qu'elle a envie de faire. Donc du coup, il se trouve avec deux autres chanteurs qui, eux, justement, cherchent à construire un personnage comme Corbelli, qui est un Michonnet qui finalement est très émouvant, alors que ça pourrait être un personnage assez ridicule. Donc du coup, oui, on s'attend à autre chose.
Ouais, Richard.
C'est-à-dire, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a 5 mètres d'ouverture de scène en plus à l'Opéra Bastille par rapport au Covent Garden. Mm-hmm. Et ça m'a gêné dès le départ, parce qu'en fait, ça fausse complètement la perspective sur ce spectacle. Passer d'un plateau avec 14 mètres d'ouverture à un plateau avec 19 mètres d'ouverture...
C'est important que ça, je ne m'en rends pas compte.
Ah, c'est important, c'est que le décor flotte complètement. Mm-hmm. C'est l'arrière de la scène de la Comédie Française, le premier acte. L'arrière de la scène de la Comédie Française qui constitue le décor flotte sur ce plateau qui ouvre de 19 mètres. C'est-à-dire, il n'a pas été agrandi. Le
décor.
Du coup, il y a beaucoup de noir.
Ça a été conçu pour Londres, voilà, donc ça s'adapte mal à Paris.
Il y a beaucoup de noir autour et le décor flotte. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est les costumes sont magnifiques et on les voyait beaucoup moins bien parce que l'effet de perspective n'était plus le même dans cette salle. C'est un peu l'inconvénient des coproductions. C'est pour ça que je me souviens, Nicolas Joël faisait souvent refaire les décors, Hugues Gall aussi, des mêmes productions qu'il prenait, il les refaisait refaire pour la Bastille parce que c'est énorme.
Oui, il faut des sous-sous pour faire refaire aussi.
Il faut des sous-sous. Oui. Donc, quand vous transportez comme ça, à Vienne, je pense que c'est un peu comme à Londres.
C'était
question qu'il y avait eu à Vienne,
oui, d'ailleurs,
chose, oui.
Absolument, j'étais même parti à l'entrée.
C'est pas vrai. Ah oui, ça c'est rare chez vous,
ça. Je m'étais ennuyé. Oui.
Okay,
parce que justement, c'est un spectacle très décoratif et c'est un peu tout ce qui m'intéresse pas. Alors, c'est vrai qu'esthétiquement, rien à dire. C'est très recherché, c'est très beau. Les couleurs, en plus.
Il y a quand même un truc, c'est comme il n'y a rien au-dessus du décor. Les voix fichent le camp.
Et ça marchait beaucoup mieux à Vienne, qui est une scène plus intimiste, bien sûr.
Et la direction d'orchestre, tiens, tant vous y êtes, Christian.
Mais j'ai Daniel Oren. On va pas être d'accord avec Richard là-dessus.
Ah bon?
Moi, j'ai toujours tendance à défendre Daniel Oren, qui a ses détracteurs. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce que fait Daniel Oren, notamment dans ce répertoire-là, auquel on a souvent apposé une réputation de vulgarité ou d'effet facile, c'est qu'il ne tombe pas là-dedans et il va chercher de véritables couleurs, des atmosphères musicales. Et il fait sonner super superbement l'orchestre de l'opéra. Il y a le prélude du dernier acte que bon que j'aime sans doute parce qu'il est wagnérien, évidemment. Mais là, il va chercher des pianissimo de cordes et des coloris de bois que je trouve absolument superbes et qui anoblissent d'une certaine manière ce répertoire.
Vous faites rigoler.
Oui, mais ça, je m'y attendais.
Non, non, pas du tout. Ah, je suis en plus d'accord avec Christian. Il a fait un travail d'orchestre absolument sublime, notamment de soin du détail, de cette tapisserie arachnéenne qui tisse sous la voix d'Angela Gheorghiu. Vous me direz, il n'a pas trop le choix. Le problème, c'est qu'il perd complètement de vue le théâtre. Mais alors, complètement. Du coup, Adriana devient interminable. Je n'en pouvais plus. Bon, c'est quand même un opéra, disons-le honnêtement, c'est moins dramatique qu'André Chénier. Pour rester dans les mêmes, il y a de grosses longueurs dans Adriana Couvreur, et cette manière de le diriger les accentue. Du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Mark Elder à Londres ralentissait aussi pour la diva et aplatissait l'orchestre. Mais au moins, quand Gheorghiu s'arrêtait de chanter, on repartait dans le théâtre et on entendait un orchestre. Là, Oren, de bout en bout, dirige sotto voce. Voilà, c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Une Adriana sotto voce. L'Adriana elle-même et l'orchestre. C'est divinement fait. Moi, ça m'a ennuyé.
Vous aviez l'air, Michel Parrucci, de vouloir parler d'Alessandro Corbelli aussi dans cette
production.
Oui,
parce qu'il a un rôle relativement ingrat, c'est-à-dire celui du vieux régisseur amoureux de, c'est le ver de terre amoureux de l'étoile. Ouais. Et il fait ça avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intelligence, alors que ça peut être un rôle très casse-gueule. Ça peut devenir vite ridicule. Et moi, il m'a vraiment touché, cet homme. Et puis, je trouve ce qui avait été sympa aussi, c'est que dans les tout petits rôles, il y a gens comme Raoul Jiménez ou Alexandre Duhamel qui font ça très bien. Or,
qui sont des gens ex de l'atelier lyrique, hein, aujourd'hui devenus
chanteurs.
Et dans cet opéra, les petits rôles sont extrêmement importants. S'il y en a un qui est mauvais, ça risque de mettre tout l'ensemble en l'air. Puis il y a Madame d'Intino qui fait ce qu'elle a à faire plutôt courageusement et bien. Et en s'investissant dans
dites-moi, vous êtes tellement partagé, il faut aller le voir, cette Adriana, le couvreur, ou pas, Christian? Il fait la moue, pas vraiment, non, on n'est pas obligé.
Il faut aller le voir, parce que de toute façon, c'est une opéra qu'on entend à Paris une fois.
C'est vrai, c'était 93 la dernière fois, avec Mireille Lafreni tout de même.
D'accord.
Qui avait le double de la voix de Gheorghiu.
D'accord.
Qui n'était pas forcément une Adriana, on peut en débattre, mais elle avait le double de la voix, y compris dans le pianissimo.
Adriana, le couvreur de Chilea, c'est donc à l'Opéra de Paris jusqu'au 15 juillet.
France Musique.
Catone et Nautica, ça fait pas titre d'opéra, mais ça l'est pourtant, c'est le Leonardo Vinci, un disque et un concert, nous y voilà.
Vedeste ancora un padre ed una figlia per via al mare di lei, per via al mare di lei, misero al par di me. Dite, vedeste ancora, dite, un padre ed una figlia per via al mare di lei, misero al par di me, al par di me. Dove svegliarmi, svegliarmi ad ora che affisti al di leggia. Dite, vedeste ancora, dite, vedeste ancora, un padre o una figlia. Per fino al par di lei, per fino al par di lei, misero al par di me, misero al par di me. Distinti hanno a questo solo affanno, a questo solo affanno, costante il mondo nero, a questo solo affanno, costante il mondo allora, capri salì parli, il cielo al guarda al par di me.
Un extrait de Caton in Utica. On dit bien Caton d'Utica, hein, sans problème, hein, c'est ça.
Enfin,
hein.
quand je faisais du latin, c'était il y a très, très longtemps, hein, oui, on disait ça. Oui.
De Leonardo Vinci, un opéra qu'on ne connaissait pas, qui nous arrive ici, premier enregistrement mondial chez Decca, sous la direction de Riccardo Minassi. Il Pomodoro pour l'orchestre, c'est l'orchestre qu'utilise, entre guillemets, Maximilian Chenecic régulièrement depuis pas mal d'années pour toutes ses productions. Et là, on entendait la voix dans le rôle-titre Caton, donc, de Juan Sancho, avant de venir au spectacle qu'on a pu voir à Versailles, sur ce coffret Christian Merlin.
Ben c'est magnifique.
Oui, carrément.
Mais oui, figurez-vous que je l'ai reçu comme souvent. On nous envoie, nous sommes privilégiés évidemment, les critiques, on nous envoie les disques avant la commercialisation pour qu'on puisse en parler dans nos publications. Et du coup, souvent, ils sont présentés de manière sommaire, ils ne sont pas dans leur emballage définitif. Donc il m'a été envoyé comme ça, sans
pochette. Presque à l'aveugle, quoi.
Sans pochette, ouais. Je ne savais pas ce que c'était. J'ignorais tout de l'œuvre, de l'histoire, même si j'avais de vagues souvenirs, justement, d'histoire antique. Et déjà, à la première écoute, sans information historique, sans aucune indication, j'ai trouvé ça assez prenant et assez captivant. Et quand, en plus, après, on a la possibilité de se rattraper un peu au niveau culturel et de s'informer sur l'œuvre, on est impressionné parce que, d'abord, je voudrais dire que ce Vinci nous étonnera toujours, décidément. Ça n'est pas la première fois qu'on redécouvre des œuvres de lui, après Artaxercé et encore d'autres, et on se rend compte que c'est un compositeur qui a d'abord un sens du théâtre assez confondant. On cite toujours dans ce 18e siècle opératique, évidemment on cite toujours Handel, mais on se rend compte que la palette était beaucoup plus large, donc énorme sens du théâtre, des atmosphères, de la virtuosité vocale,
ça c'est évident,
alors là voilà, on en a eu un exemple, mais pas gratuite, je trouve que c'est quelqu'un qui sait vous tenir en haleine sur la durée d'une scène ou d'un acte, et là ça se vérifie tout à fait. J'étais intéressé aussi d'entendre Riccardo Minassi, le chef, parce que j'étais plus habitué à entendre Diego Fasolis avec Max Emmanuel Chencik, qui est d'ailleurs un merveilleux chef. Du coup, j'étais un tout petit peu inquiet, et en fait, ce qu'il fait, comme on l'a entendu là, est tout à fait crépitant.
Oui. On précisera côté distribution donc, vocale que c'est juste contre-ténor et ténor. Hein,
voilà.
Nous avons ici, et entre autres, Max Emmanuel Chencik, Franco Fagioli, qu'on écoutera tout à l'heure, Valère Sabadus et quelques autres. Alors vous, Michel Parouti, vous avez non seulement reçu le disque, vous allez nous parler aussi, mais vous êtes allé voir le spectacle, ce Caton in Utica, qui était montré à Versailles en première en France la semaine passée, avec donc à peu près, à une exception près, les mêmes interprètes. Hein.
Oui, alors moi, comme Christian, j'ai commencé par le disque, et je dois dire très franchement que j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai pas eu complètement le coup de foudre que j'avais eu pour Artaxercé, ne serait-ce que parce qu'il y a de très très longs passages en récitatif. Et du coup, si vous n'avez pas le texte sous le nez, c'est très frustrant. Donc ça m'a, je crois, un petit peu gâché mon plaisir. Je me demandais ce qu'allait donner le spectacle, parce que, pour tout vous dire, c'est le spectacle commençait à 20h, finissait à minuit 20.
Ah oui, quand même.
Oui, avec deux entractes. Ouais.
Bon. On y passait sa soirée, vraiment.
Ah, on y passait largement sa soirée, y compris les gens qui n'avaient pas prévu le coup et qui n'avaient plus de RER pour rentrer sur Paris.
Heureusement, donc, il y avait des Versaillais.
Oui. Mais donc, je me demandais comment tenir la scène pendant trois actes de plus d'une heure, avec donc six personnages, six chanteurs, dont deux faisaient des personnages féminins. Et j'avoue que j'ai été heureusement surpris, parce que, pour le coup, je ne me suis pas ennuyé du tout. Peut-être Minassi est-il moins précis que dans le disque, parce que là, il faut vraiment déployer une énergie totale pendant tout le temps de la présentation. Il dirige du violon, d'ailleurs, il joue...
Ah ouais ?
Oui, oui. Et voilà, c'est un orchestre, un son très, très pugnace, très vif, et ça, c'est plutôt bien. Et j'avoue que la distribution est assez épatante. Alors, un monsieur qui s'appelle Jacob Peter Messer, qui a fait la mise en scène, qui a réussi, il n'a pas fait un travail très imaginatif, ni très dérangeant, hein. C'est pas ces metteurs en scène à risque...
Ouais.
Bon, qui vous
font. On se dit que pour une œuvre comme ça, c'est peut-être pas nécessaire non plus.
Histoire dans un autobus ou dans une Vespasienne. C'est vraiment. Mais il a fait un truc assez bien qui est que, il y avait des projections de gravure, il y avait des éléments de décor, il y avait un cadre de scène, il créait une profondeur de champ qui faisait quand même que, on suivait assez bien l'action. ça dérapait de temps en temps vers un univers un peu fantastique, un peu, mais très légèrement. Et finalement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Et il arrivait surtout à faire jouer les gens. Mmh. Et alors, quand c'est Max, Emmanuel Cenci, ou quand c'est Fagiolis, ça vient de même. Vraiment, les autres étaient très bien. Et alors, il n'y avait pas, comme dans le disque, Valère Sabadus qui était souffrant. Il y avait un jeune ténor, un contre-ténor américain qui s'appelle Ray Chenez, ah ouais, qui était absolument épatant dans le rôle de la fille de Caton.
D'accord. Ben, encore un mot sur le disque, peut-être, Christian, avant de refermer ce Caton et Moutica. On peut y aller donc yeux fermés.
Ah si ouais, largement. Bien. D'autant que ce que Michel évoque, les éventuelles imprécisions que j'imagine volontiers de la part de l'orchestre ne sont pas du tout dans le disque, bien où sûr, on a vraiment un produit extrêmement soigné et fignolé.
Et vocalement exceptionnel.
Ah oui, hein, c'est magnifique. Dire, hein. Absolument.
Allez,
magnifique.
Un dernier extrait. On ne va pas refaire le da capo, on va le faire sauter pour cette fois. C'était Franco Fagioli qu'on entendait ici, dans ce Caton du Tic de Leonardo Vinci, coffret de 3 disques qui nous arrive donc chez Decca, sous la direction de Riccardo Minassi. Nous disait Michel que c'était le délire dans la salle de Versailles.
Ah, totalement, il y a un engouement pour ce genre de voix qui est formidable. Et quand lui ou Cenci chantait, c'était le délire total. Ouais. Et alors quand Vinci, qui fait un des rôles féminins, chantait aussi, c'était pareil.
Ah ouais. Faut dire, absolument, c'est une voix super impressionnante, il n'y a que Marté pour ne pas aimer ça.
Non, parce que ce que vous entendez au disque, il le fait aussi à la scène.
Hein, bah oui, pas, oui, non, mais il est fantastique, ouais. Ouais, extraordinaire. Bon.
France Musique.
L'info et la surprise de la semaine, c'était donc lundi la nomination à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin du chef russe 43 ans, Kirill Petrenko. Ça a surpris tout le monde, alors parce que les musiciens du Philharmonique de Berlin qui choisissent le chef d'orchestre même, comme processus de nomination rare, ça mérite d'être souligné. C'était déjà réuni début mai, ils n'avaient trouvé personne, enfin personne. Il y avait en fait beaucoup de noms, mais ils n'arrivaient pas à se décider. Et puis là, ils sont réunis, si je comprends bien, en grand secret, pour trouver finalement Kirill Petrenko, un chef qui a quasiment pas enregistré, il y a 5, 6, 7, 10, enfin trois fois rien, et qu'on a vu un petit peu en France quand même. Christian Merlin, est-ce que cette nomination vous a surpris ?
Oui, mais en bien. Ouais. Je suis absolument ravi parce que c'est un des immenses chefs d'aujourd'hui et qui n'est pas très connu par choix personnel d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui fuit la médiatisation. On savait qu'il était dans les chouchous de l'orchestre, mais je pensais que ça ne marcherait jamais parce que je supposais que l'orchestre tablerait forcément sur quelqu'un de très médiatique justement et qui pouvait dégager...
Genre Dudamel,
par exemple, voilà, qui a des contrats, maison de disques, tournées, etc. Et puis qui est un communicant, parce que c'est important là-bas. Et finalement, je suis ravi, parce que ça veut dire que le critère essentiel qu'il a emporté, c'est la musique, finalement. Et ils ont été malins, là, les Berliner Philharmoniker, je dois dire, parce que le fait qu'ils n'arrivent pas à se prononcer et à trouver une majorité en faveur d'un chef le 11 mai a été assez mal reçu dans le monde musical. Et après, ils se sont dit, on va faire profil bas. Ils ont juste dit, on se réunira à nouveau dans l'année. Donc comme ça, c'est resté très vague. Autrefois, ils n'annonçaient jamais le jour où ils faisaient le choix. On l'apprenait après coup. Donc ça n'était pas hyper médiatisé comme ça l'a été le 11 mai, où on attendait comme l'élection du pape, on attendait la fumée blanche. Là, ils nous ont pris par surprise. Le lundi matin, on a eu juste un communiqué du Philharmonique de Berlin. À 13h, nous tiendrons une conférence de presse à la Philharmonie de Berlin. Ceux qui ne peuvent pas y être pourront la suivre sur le Digital Concert Hall, donc sur Internet, hein, sur leur site Internet, leur salle de concert virtuelle. Et là, ils ont fait cette annonce. Ce sont évidemment les principaux musiciens, les présidents, vice-présidents, etc., qui l'ont annoncé, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une auto-gestion, auto-administration. Et j'ai vraiment senti, dans leur manière d'annoncer cette nouvelle, du bonheur, tout simplement. Et c'est rare. Ils ont tous souligné que c'était une nomination émotionnel. Et il y a une phrase très jolie prononcée par un violoncelliste de l'orchestre qui a dit au micro, vous savez, avec les chefs invités, lorsque nous en recevons un chef, après le concert, nous nous demandons, faut-il le réinviter ? Avec Petrenko, nous nous demandions, quand revient-il ?
Et il y a... Mais il n'est pas venu beaucoup d'ailleurs à Berlin.
Trois fois seulement. Oui, c'est ça. Trois fois. C'est un chef absolument génial.
Ah bon, carrément.
Oui. Qui fait à l'Opéra de Munich des merveilles. Sa femme sans ombre était absolument captivante. Son ring à Bayreuth, le fameux ring de Frank Castorf, dont la mise en scène a fait tant scandale. La direction était absolument fascinante. C'est quelqu'un d'habité par la musique, en même temps très perfectionniste et avec un côté presque chaman. Enfin, c'est un inspiré.
Richard.
Ah, moi, je suis ravi aussi. Déjà, on a échappé à deux terreurs, Christian Tilleman et Gustavo Dudamel. Ouf. Ouf pour Berlin, ouf pour nous. Et bon, moi, je voyais bien Ricardo Chailly. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. Oui. Ça m'aurait bien fait plaisir parce que lui, c'est un chef que j'adore. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, on saura jamais. Petrenko, c'est un excellent choix. Je trouve assez génial que ce chef qui n'est pas médiatique, comme le décrivait, se retrouve quand même à la tête du Philharmonique de Berlin et du Staatsoper de Munich, quand même, dont il est le directeur musical. Il se retrouve avec deux énormes institutions. Il a rien fait pour. C'est pas le genre à aller lobbyiser.
Tu sais, j'ai l'impression. Ah, il était pas sûr de prendre Berlin.
Oui, alors visiblement, ça on le saura jamais, c'est invérifiable, mais on a dit par exemple que le 11 mai, lorsqu'ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas trouvé de majorité, en fait il y en avait une, mais que le chef avait refusé. D'accord. Alors certains disent que c'est Andris Nelsons, d'autres que c'est Petrenko qui une première fois avait refusé, c'est évidemment invérifiable.
Ah, c'est phénoménal. De toute façon, moi le Tristan de Lyon que j'avais vu il y a 3 ans qu'il dirigeait, j'étais un peu réticent au départ parce qu'il avait ce côté chambriste qui me plaît pas forcément dans Tristan, puis alors à partir du 2, je me suis laissé emporter. Voilà. C'est quelqu'un qui vous emmène quelque part, Petrenko. C'est pas quelqu'un qui se contente de diriger, c'est quelqu'un qui vous emmène dans un autre univers, dans un autre monde. Et le troisième acte m'avait complètement bouleversé et laissé. J'étais sorti sonné de la salle de l'Opéra de Lyon et je m'étais dit, c'est un très très grand don. Bravo. au Philharmonique de Berlin.
C'est la prime à la qualité, la vraie, ah, on va dire. Ah, bah, et c'est pas musique... mal, c'est rare aujourd'hui en
exactement.
Plus, non ?
Et c'est la prime à la musique sur la communication. Mmh. En plus, c'est quelqu'un alors qui est de santé fragile, qui soit annule parfois des concerts, ou en tout cas, non, il annule d'ailleurs de moins en moins, parce qu'il a pris un parti, c'est qu'il ne dirige que tant de soirées par an. Et il veut limiter son nombre d'apparitions, si bien que je pense que ce sera un directeur musical moins présent que Simon Rattle, mmh. qui fera moins de concerts, mais c'est pas bête, parce que du coup, chacun de ces concerts sera un événement.
C'était donc la nomination de Kirill Petrenko à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Pas facile de l'écouter, Petrenko. Il y a très très peu d'enregistrements. Il a fait quelques-uns chez CPO consacré à Josef Suk. Voici. À mesure de Légende d'été, un poème symphonique de Josef Suk qui était dirigé ici par Kirill Petrenko à l'époque où il dirigeait l'opéra comique de Berlin, le Comische Oper. Je ne sais pas s'il y est toujours d'ailleurs.
Non, il est plus à Munich depuis.
Et maintenant, il sera donc passé côté Berlin au Philharmonique. Et comme vous l'aurez compris, enfin en tout cas pour nos critiques du jour, c'est une très belle nomination.
Juste Lionel, un tout petit conseil. Oui. Si vous êtes abonné au Digital Concert Hall sur Internet du Philharmonique de Berlin, allez voir le poème de l'extase de Scriabine dirigé par Petrenko. C'est génial.
D'accord. D'accord, très bien. Le message reçu. Michel Parouti, vous êtes allé voir Armide de Jean-Baptiste Lully à l'Opéra National de Lorraine, c'est à Nancy tout cela, sous la direction de Christophe Rousset qui m'en avait parlé il y a quelques semaines dans cette émission de ce spectacle, la suite donc de son programme Lully. Il est passé, bon, il a commencé il y a des années, mais il y a eu surtout ces dernières années Phaéton, Amadis, Bellérophon, de très très beaux spectacles. Et cet Armide, que vaut-elle?
Bah, il fait ça de mieux en mieux, je veux dire, c'était un plaisir. Je vois déjà Richard qui se marre.
Bah, il n'aime pas Lully, lui. Ça lui donne des boutons.
Bon, moi, je... En revanche, j'adore Christophe Rousset.
Moi, j'avoue que j'ai passé à l'écouter un moment absolument merveilleux, avec de bons chanteurs pour la plupart, avec Marie-Adeline Henry qui très courageusement chantait le rôle titre. Elle n'a pas l'habitude de ce répertoire, ça s'entend, elle ne contrôle pas toujours sa voix. Il y a par un moment, elle chante très très fort, à d'autres moments, on ne l'entend pas très peu. Mais elle, je pense qu'elle y arrivera. Et puis, un spectacle assez sympa où David Herman, le metteur en scène, a imaginé un truc assez fou, c'est-à-dire d'intégrer le lieu de la représentation, c'est-à-dire le théâtre, la place Stanislas et tout ça, dans le spectacle. Alors, il y a tout un jeu de vidéos et c'est complètement... agréablement déstabilisant, c'est-à-dire qu'à certains moments, on se dit, mais c'est quoi ça? Je suis où, là?
Je suis ressorti, je suis
encore
là.
Ça marche très très bien, ça marche très très bien. Et puis bon, ce que vous voulez, moi, je trouve cette musique absolument superbe. Donc, tant mieux.
Voilà. Tant mieux. Le reste de la distribution, parce qu'il y a plein de beaux mondes aussi.
Il y a plein de beaux mondes, il y a Marc Moyon qui est génial, qui fait la haine, une figure allégorique et qui est très très drôle. Il y a cette très très jeune chanteuse que j'aime beaucoup, mais qui a une voix ravissante, qui s'appelle Asna Benani, qui fait une nymphe des eaux absolument... ravissante, et il y a Andrew Schroeder qui fait Hydrote, et puis il y a Julien de Prégardien qui fait Renaud, qui fait ça aussi, avec un style, une classe, une diction française.
Qui est le fils, impeccable. Hein, le fils Prégardien, c'est ça, qui est un très bon chanteur, lui aussi.
Mais voilà, il a retenu les leçons de son père.
Et c'est donc Armide de Jean-Baptiste Lully à voir à Nancy sous la direction de Christophe Rousset, absolument, où ce sera en juillet, le 3, je crois, juillet, je sais même plus, mais d'ailleurs j'y vais, donc
et on savoir. Espère, on espère un disque.
Et puis, ah bah ça, ce sera obligatoire, je crois, hein, puisque de surtout les Lully, normalement ça vient avec. Et jusqu'au 30 juin, donc, à voir à Nancy les œuvres lullistes de Rousset. Et bien voici Bellérophon. Juste pour le plaisir, un chœur extrait de Bellérophon de Jean-Baptiste Lully, version Christophe Rousset avec ses talents lyriques, chœur et orchestre. Et puis Michel, puisque vous aviez la main, si j'ose dire, vous êtes allé mercredi à Auvers-sur-Oise, où il y a un très joli festival tous les ans à cette période. Vous y avez vu Sabine Devielle, qu'on adore, évidemment, dans un répertoire un peu particulier, c'est ça?
Ah ben tout à fait, elle donnait un récital avec Anne Le Bozec, la pianiste avec laquelle elle travaille souvent, et avec un programme assez culotté quand même, parce que c'était Zemi Ravel, Albert Roussel.
Donc, c'est particulier.
Ah bah c'est plus rare et puis pour un public, c'est quand même moins facile qu'un programme Schubert. Et j'avoue que les gens étaient sous le charme. Alors elle commentait un peu le programme parce que c'était des œuvres peu connues et c'était une pure merveille.
D'accord.
Donc on attend le disque Mozart à la rentrée.
Oui, ce qu'elle nous faire ça en effet. Absolument. Ouais. Sabine Devielle donc qui était après une festival d'Auvers-sur-Oise. Ah oui, ça j'ai pas vu
ça. Grande année.
Ah oui. Ouais, très bien. Le disque coup de cœur du jour pour Richard d'abord, pour Christian ensuite. Ils vont nous en parler. Ils me l'ont apporté tous les deux presque par des voix différentes et d'un air de dire, si t'as manqué ça, t'es bêta. Et ben voilà, je suis bêta. Pretorius, donc, on connaissait sous l'angle Michael Pretorius. Il y a deux de la famille autour, un Jacob, un Hieronymus, c'est-à-dire Geronimo, enfin quelque chose comme ça. Ce qui est surprenant surtout, c'est celui qui dirige tout cela, Pablo Erascasado, dont on sait qu'il a fait beaucoup de choses, dont du contemporain, dont la magnifique flûte enchantée d'Aix-en-Provence, dont on a parlé hier avec Stanislas de Barbérac dans cette émission. Et ici, donc, il dirige cette musique des combien, 16e, 17e siècle, Richard? C'est
début
surprenant
du 17e
quand même.
Siècle, oui. Ben, c'est très surprenant parce que moi, je l'ai vraiment découvert quand il dirigeait Courtevaille au Théâtre Real de Madrid, Mahagoni. Ensuite, il y a eu la flûte enchantée. Emmanuel Giuliani, dans l'émission, racontait très récemment à quel point il était phénoménal dans la Traviata à Baden-Baden. Mm-hmm. Et maintenant arrive un disque Pretorius, oui. Donc de musique polyphonique du début du 17e siècle.
Rien à voir avec tout le reste. Hein.
Ah, ça n'a rien à voir avec tout le reste. J'avais beaucoup aimé son précédent de musique ancienne, disque de musique ancienne baroque chez l'an dernier avec Farinelli avec Bejan Mehta qui faisait deux airs. Je crois que je l'avais même amené en coup de cœur il y a un an. Et donc là c'est le suivant. Ce coup-ci c'est Pretorius, ça n'a rien à voir avec le précédent. Il fait ça extrêmement bien et il est extrêmement bien servi par le Balthasar Neumann Corps et Ensemble.
Qui est basé à lui, qui est le groupe de Thomas Engelbrock, c'est ça?
C'est le groupe de Thomas Engelbrock que moi j'aime beaucoup, que j'ai eu souvent l'occasion d'entendre. Je ne sais pas si on les entend beaucoup en France, mais j'ai eu souvent l'occasion de les entendre à Baden-Baden où ils sont presque orchestre en résidence. Et là j'ai retrouvé cette qualité vocale, évidemment, d'abord, mais aussi instrumentale, puisqu'il y a un léger accompagnement instrumental dessous. C'est une très belle musique. Bon, attendez, faut pas écouter Léon Splage à la suite. Ce sont des motets, c'est une polyphonie, un peu répétitive quand même, mais c'est une énorme séduction, beaucoup d'émotions. C'est tellement bien fait. Et oui. Ce n'est jamais ennuyeux. Vous pouvez les détacher, en écouter un autre. Et bon, effectivement, ils appartenaient pas à la même famille, hein, les trois Pretorius. Je croyais que c'était la même famille, moi, au début.
Il y en a deux qui sont.
Deux qui sont dans la même famille et le troisième a rien à voir. Et c'est vraiment un répertoire très très agréable à découvrir, surtout dans des conditions pareilles.
Christian.
Mais oui, c'est une grosse surprise de recevoir ce disque et on se dit, mais est-ce qu'il va nous surprendre à chaque fois comme ça, Pablo Erascasado? C'est presque improbable d'ailleurs, l'alliance Pretorius-Casado et en même temps pas tant que ça. Et je me dis que, outre le fait que le disque est admirablement réalisé, c'est peut-être le signe d'une nouvelle génération de musiciens où on n'est plus tellement dans l'hyperspécialisation comme on l'était beaucoup devenu. Et il y a une sorte d'ouverture des frontières et c'est très bien parce que ça ouvre l'histoire de la musique en amont et en aval. Très souvent, le chef d'orchestre type Pablo Erascasado, il dirigeait les musiques entre 1780 et 1945, en gros. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est très dommage de se réduire à deux siècles de musique. Et voilà quelqu'un qui, effectivement, moi, mon attention avait été attirée sur lui à Lucerne, à l'académie dirigée par Pierre Boulez, pour jeune chef d'orchestre, dans le répertoire contemporain. Et il y a un documentaire filmé où on voit les différentes masterclass, les leçons, et ensuite les concerts épreuve finale. Et Pierre Boulez disant à tout le monde en jury, c'est évident que celui qui s'impose, c'est l'Espagnol, là, c'est Pablo. Et depuis, ça s'est vérifié. Et avec cet éclectisme qui peut être risqué, parce que du coup, parfois, on est mi-chèvre, mi-chou, et on est bon dans rien. Avec lui,
il est bon dans tout.
C'est pas le cas. Voilà.
Et quand vous dites des chefs qui font beaucoup de choses, un Hervé qui faisait à la fois du Weil,
par exemple,
du Lassus et du Bach, oui, jadis.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'en venant d'une autre formation, là, c'est
absolument
un chef de formation classique, on va dire.
Mais il se faisait pas effet, revient vers eux. Voilà.
Non,
ça, c'est... parce qu'en plus, c'est vraiment un tout autre univers.
Ce que vous dites, c'est valable pour les chanteurs aussi aujourd'hui.
Oui. Un petit extrait de ce disque, 3 minutes à peine, vous allez voir comme c'est beau. Hieronymus Praetorius Soquam Pulchra S. C'était dirigé par Pablo Heras Casado, un disque tout Praetorius, donc avec le chœur et l'orchestre Balthazar Neumann. C'est une nouveauté du disque chez DG Archive Production. Merci à mes oiseaux du jour, Christian Merlin, Richard Marté, Michel Parouti. Cette émission était préparée par Françoise Montaille, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Thomas Bizot et Xavier Attaud.